Nous démarrons le dernier débat de notre colloque avec Stéphane Durand, qui est journaliste, scénariste, ornithologue, d'après ce qu'on m'a dit aussi, et scénariste donc justement des films de Jacques Perrin et Jacques Clouzot, Océan, Le Peuple Migrateur et Les Saisons et la série qu'on vient de voir. Donc je lui passe la parole, il va nous présenter les différents intervenants. Bonne fin de colloque.
Merci. Bonsoir. Ben voilà, depuis le début du colloque hier après-midi, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup parlé d'animaux domestiques et d'animaux d'élevage, et finalement assez peu d'animaux sauvages. Et là, avec la projection de ce film, on a, je trouve, bien rééquilibré les choses. Et ce film, comme Jacques l'a dit, s'intéresse pas forcément au point de vue, mais enfin, on a essayé de placer la caméra aux côtés des animaux sauvages pour vivre avec eux notre histoire, hein, voilà, depuis la préhistoire, en passant par les Romains, le Moyen-Âge, et de voir comment ils ont vécu tout ça. Et le film se termine sur un constat. Vous avez entendu que nous vivons aujourd'hui une époque paradoxale, avec le retour de grands animaux, la disparition de petits animaux. Et Dans cette campagne que nous avons mis en place, hein, nous et nos ancêtres, hein, depuis des milliers d'années. Et donc le film pose la question, qui est en suspens, et nous allons en discuter tous ensemble maintenant, d'une nouvelle alliance possible. Est-il possible, enfin, au XXIe siècle, de vivre en relative paix avec tous ces animaux plus ou moins proches de nous? Donc nous allons en parler avec Sabrina Krief, spécialiste des chimpanzés, des grands singes, Baptiste Morisot, qui est philosophe et pisteur de loups, entre autres, et Gilbert Cochet, agrégé de sciences de la vie et de la terre, expert auprès du Conseil de l'Europe, et puis un éventail de compétences assez hallucinant. Voilà. Alors bon, pour répondre à cette question, donc on va prendre nos croquenots, on va aller marcher dans la forêt, on va aller traverser des rivières, on va aller grimper dans les arbres de la forêt équatoriale avec nos trois guides de passionnants qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point vraiment particulier, c'est que ce sont tous des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire que toute leur réflexion sur cette nouvelle alliance possible est vraiment issue de leur relation avec le monde sauvage, parce qu'ils travaillent autant sur le terrain qu'au laboratoire et dans les bibliothèques. Et une question qui est revenue assez souvent sur le colloque, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis hier, c'est le regard que l'homme échange avec l'animal. Et il se trouve que le travail de terrain comporte des risques, et l'un des grands risques, c'est un risque philosophique, qui est le risque d'échanger avec l'animal, et dans l'échange de regards, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que on ne considère plus forcément l'animal qu'on est en train d'observer avec nos idées préconçues, et en même temps, on voit dans l'œil de l'animal qui nous fait face, on s'interroge sur notre propre humanité. Et Baptiste Morisot a beaucoup réfléchi sur la question, décrit très bien cette expérience avec des termes assez forts que je vais vous dire, et on va l'interroger là-dessus. Vous parlez, Baptiste, de la rencontre avec le loup comme une rencontre d'égal à égal, d'homme à homme. Et vous dites aussi, je fais la liste parce que c'est vraiment assez fort, et je voulais le partager avec vous. Donc cette rencontre d'homme à homme, d'égal à égal, vous dites que quand vous rentrez sur le territoire du loup, vous avez l'impression de rentrer chez quelqu'un. Ça, c'est, je trouve, assez fort. Que dans le regard du loup, vous lisez, vous avez l'impression qu'il lit en vous une intériorité, une âme, si je puis dire. Et enfin, vous dites que c'est un grand prestidigitateur. Et encore plus fort, vous parlez de la vie des meutes de loups en termes shakespeariens. Ça, c'est assez bluffant. Est-ce que la rencontre avec le loup et cet échange de regards permet d'en faire de le considérer comme un sujet et non plus comme un objet?
Alors, donc c'est dense comme question, mais C'est en effet là, vous avez relevé toute une série de formules par lesquelles j'essaie de dire, j'essaie plutôt de résoudre un sentiment très mystérieux que d'affirmer des choses. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui se passe dans cette fameuse rencontre. Là, vous évoquez un récit où une nuit aux abords d'un troupeau dans le Var, les patous commencent à hurler et je descends et je tombe face à face avec le prédateur qui est en train d'harceler le troupeau. Et en effet, il se passe quelque chose de très intriguant, c'est que j'arrive pas à raconter la rencontre et donc j'essaie de mettre en série toutes ces formules étranges. Cette idée, en effet, ce qui me frappe, c'est qu'il me regarde au visage. Et là, tous les propriétaires de chiens le savent, mais... Donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais dans ce contact avec cet animal qui a été beaucoup stigmatisé et puis qui est l'archétype de la sauvagerie dans ce qu'elle aurait d'instinctif, de primal, il y a un échange de regards qui en effet l'érige en tout autre chose qu'un animal machine régi par des instincts. Ça, c'est assez fort. Et puis l'autre aspect que vous soulevez, et il est peut-être plus important pour moi parce que la rencontre avec le loup, c'est vrai que ça, c'est pas anodin comme événement, mais en vérité, pour moi, c'est plus important de le démystifier que de le mystifier, au sens où ce qu'il y a d'assez comique dans l'histoire, c'est que ça ressemble à une rencontre amoureuse déçue, au sens où l'humain qui s'intéresse à ces questions, il s'investit effectivement dans cette rencontre, et le loup, en fait, la plupart du temps, quand ça m'est arrivé, il s'en fiche éperdument, il me regarde quelques secondes, et puis il s'en va en trottinant... Donc voilà, ça n'a pas fait sa journée de son côté. Par contre, un aspect qui est pour moi vraiment décisif, c'est celui que vous soulevez, c'est cette idée de rentrer chez quelqu'un. Ça nous a beaucoup frappé quand on a commencé à pister le loup dans les Alpes et qu'on a vu dans la neige les premiers marquages et les premières traces. Moi, j'ai beaucoup marché dans les Alpes avant qu'ils reviennent, ou alors quand il était trop discret pour que ce soit clair. À l'époque où on croyait que c'était des traces de chiens quand on voyait les traces. Et en fait, à partir du moment où on a vu et on a su lire ces marquages territoriaux, c'est vraiment une émotion saisissante. Je crois que c'est un des rares animaux qui est capable de produire cet effet miroir à l'égard des humains parce que c'est un animal puissamment territorial. Bien évidemment, en fait, on est chez eux assez systématiquement, si on veut bien poser le problème en termes d'habitat. Ils habitent ici, la plupart du temps, d'ailleurs, ils y habitent beaucoup plus que nous, ils y habitent à l'année, ils sont résidents permanents, ils sont tissés dans des relations écologiques beaucoup plus intimement que nous. Mais le loup, lui, nous le révèle et il nous l'impose, parce qu'il a une territorialité spectaculaire. Il marque et il veut qu'on voit. Alors, pas nous exactement, c'est un peu ambigu. Je pense pas qu'on puisse avancer que les loups font un démarquage spectaculaire pour les humains, mais par contre, pour les autres meutes, c'est très très clair. Nous, ce qui nous a frappé assez vite, c'est que on allait chercher les marquages dans les endroits où on savait que le loup allait choisir parce qu'ils étaient parfaitement adaptés à planter un drapeau. Donc sur des pierres claires, lorsque les marquages sont sombres, dans des virages, sur des cols. Et systématiquement, on trouvait les marquages les plus spectaculaires dans les endroits les plus visibles. Donc ça, je crois que cet animal est précieux pour plusieurs raisons, mais il est aussi précieux pour ça parce que je crois que c'est le plus capable de nous renvoyer cet effet miroir de la territorialité et de nous rappeler que les autres habitent et qu'ils habitent ici, et comme c'est magnifiquement montré dans le film, qu'ils habitent parmi nous, ce fameux loup qui est revenu et qui... Alors pardonnez-moi, c'est documenté votre territoire juste à côté de l'autoroute ou c'est fictionnel? Non, vous pouvez pas me dire?
Non, c'est fictionnel.
Ah, c'est fictionnel. D'accord. Bon, non, parce que sinon, j'aurais voulu savoir. Bon, voilà. En effet, je crois que voilà, il y a cette capacité du loup à nous rappeler qu'il habite et par le marquage et par sa grande territorialité.
Et alors, en allant plus loin, c'est un très grand, il marque son territoire, mais vous ne parlez pas du loup avec un grand L. C'est-à-dire que chaque loup a sa personnalité. Et quand vous étudiez les loups, vous travaillez sur les publications des chercheurs américains à Yellowstone, vous parlez en termes shakespeariens. Pourquoi Hamlet pourquoi vous parlez d'Hamlet et des loups c'est quand même dingue.
Oui, très bien. Bon, donc il faut que je dise un mot là-dessus, je le vois. Donc cet aspect, il provient donc d'une lecture un peu approfondie de tout le matériau que depuis 1995, les éthologues, les lupologues et les biologistes plus largement du Yellowstone Wolf Project ont produit sur le retour du loup. Donc c'est pas du tout là du travail de première main. Ce qui m'a fasciné en lisant ces travaux des éthologues, c'est qu'ils ont découvert quelque chose qui a été mis en place par la primatologie. C'est les primatologues qui ont permis ça. Ça a été théorisé par une grande primatologue britannique qui s'appelait Selma Howell. Elle appelait ça le scandale hiérarchique, en montrant qu'on n'a pas du tout les mêmes méthodes pour travailler sur les primates que pour travailler sur les autres. Et les méthodes pour travailler sur les primates sont inspirées de l'anthropologie. On va considérer que les êtres sont individuels, qu'ils ont des relations sociales. Et surtout, on va considérer qu'il y a une historicité dans leurs relations et que ça fonde ce qui se passe sous nos yeux. Et en fait, ces fameux chercheurs sur les loups et Yellowstone vont aller chercher les méthodes de la primatologie et vont les appliquer aux loups. Et ça va révolutionner complètement cette science qui était jusque-là finalement balbutiante, parce que dans les faits, en Europe par exemple, on a éradiqué les loups avant que ne naisse l'éthologie sous sa forme scientifique classique. Donc fatalement, il y avait assez peu d'éthologie de pointe d'un animal qui avait disparu. Et au-delà de ça, ce qu'ont montré ces chercheurs, alors la spécificité de leur méthode, c'est que grâce au radio collaring, ils ont mis des colliers GPS au moment de la réintroduction du loup en 95, ils peuvent aller tous les matins avec un thermos par moins 20 degrés observer quotidiennement la vie des meutes. C'est aussi permis par le faciès écologique du Yellowstone, qui est de ce point de vue là très précieux, et ils vont remplir des carnets, des milliers de pages de notes. Et ils vont se rendre compte que pour expliquer des phénomènes dont auparavant on croyait qu'ils étaient déterminés par une biologie quantitative, par exemple la dynamique des populations, la quantité des populations, la taille des meutes, en fait, il faut faire autre chose. Il faut raconter l'histoire. Et il faut transformer l'éthologie en une science historique dans laquelle on a besoin de raconter l'histoire sur des générations et des générations pour comprendre pourquoi il y a tant d'individus dans cette meute, pourquoi ils sont sur ce territoire, pourquoi ils entretiennent ces relations avec ces proies-là et avec cette autre meute. Et le second point qui émerge, c'est qu'en se forçant à raconter ces histoires avec des méthodes d'éthologue, c'est-à-dire en essayant d'interpréter le minimum à l'origine, eh bien ils finissent par se rendre compte qu'il y a une dimension aventureuse, politique, de lutte de clan à clan, avec des loyautés intérieures, des trahisons, pour lesquelles les meilleurs mots qui leur viennent sont de l'ordre du shakespearien. Et donc c'est de là que vient cette idée.
D'accord. Alors là, vous me tendez la perche à Sabrina. Sabrina, vous avez une histoire assez étonnante parce que vous êtes vétérinaire de formation et à la fin de vos études, au grand désespoir de vos professeurs, vous avez préféré vous confronter au regard des chimpanzés dans le milieu naturel plutôt qu'au regard des chiens et des chats entre les quatre murs d'un cabinet. Et alors, ce que je comprends, mais voilà. Est-ce que vous avez eu un peu la même expérience avec les grands singes et les chimpanzés en particulier que Baptiste avec les loups ?
Oui, moi je vais m'appuyer sur quelques images pour vous amener dans une autre forêt, donc la forêt africaine, plus particulièrement celle d'Ouganda. Et effectivement, vu que je connaissais la question un petit peu avant, le regard que j'ai porté a d'abord été celui naïf d'une jeune étudiante vétérinaire face à une espèce, le chimpanzé, qui fait partie de 6 espèces de grands singes, donc un regard scientifique, empreint d'alarme en fait, hein, puisque ces 6 espèces vivent en forêt tropicale, que toutes sont menacées de disparition, que, alors ça c'est plus récent, mais pratiquement tous les genres aujourd'hui sont décrits comme au bord de l'extinction par toutes les grandes ONG. Des chimpanzés qui, depuis les années 50, où effectivement les primatologues commencent à étudier plus spécifiquement leur comportement en milieu naturel, en particulier Jane Goodall, qui décrit donc des individus capable d'utiliser et de fabriquer des outils, de coopérer, de chasser, d'avoir chacun un groupe dans cette chasse collaborative et parfois même d'avoir des cultures. On en a déjà parlé pas mal ces 2 derniers jours, mais des cultures matérielles et aussi des cultures non matérielles. Donc, que signifie la danse de la pluie, par exemple, comme sur ces images d'empathie, de sympathie, d'altruisme. Et donc, sur ces bases-là, scientifiques, je part avec, bien sûr, l'objectif de ne pas avoir ce regard anthropomorphique et d'essayer de suivre les conseils de mes enseignants, c'est-à-dire de traiter les chimpanzés comme d'autres animaux, et donc de m'interroger sur l'existence d'une médecine chez les chimpanzés, donc à savoir suivre un protocole rigoureux pour savoir si parmi les autres animaux, les chimpanzés seraient capables, comme les humains, d'utiliser des plantes dans des circonstances particulières. Donc j'ai un protocole strict, celui de tenter d'observer des symptômes chez le chimpanzé, de le suivre jusqu'à sa guérison, de voir quelles plantes il consomme, de tester cette activité de la plante, de savoir en quelle quantité, en quelle fréquence cette plante est utilisée, et aussi de comparer avec les usages en médecine traditionnelle. Donc pour ça, je suis d'abord partie au Congo, puis en Ouganda. Et là, en Ouganda, j'ai travaillé sur deux groupes de chimpanzés. Alors pour travailler sur des chimpanzés, il y a une approche qui est tout à fait particulière, qui n'est ni de la domestication ni de l'apprivoisement, mais qu'on appelle l'habituation, à savoir pouvoir les approcher sans susciter ni curiosité ni crainte, et donc de pouvoir observer le comportement le plus naturel possible, en essayant donc que le chimpanzé ne prenne pas en considération notre présence. Et donc devenir en quelque sorte un arbre dans cette forêt. Donc la première étape de mon travail, de notre travail, puisque je travaille avec mon mari qui est photographe, est d'observer ces 45 chimpanzés qui ont déjà été habitués par l'université d'Harvard. Puis on verra ensuite, on travaillera sur un autre groupe.
Et vous les connaissez individuellement, ces 45 chimpanzés? Voilà, ils ont des noms, ils sont baptisés.
L'idée, c'est de savoir comment mettre en place ce protocole, puisqu'il s'agit d'observer des comportements qui sont furtifs, très rares, puisque si le chimpanzé consomme beaucoup d'une plante qui est censée être un médicament, il s'intoxiquerait. Donc il va falloir s'approcher suffisamment près, et là, bien sûr, il faut mélanger pas mal de disciplines, à savoir médecine vétérinaire, mais aussi botanique, ethnoécologie, etc., de faire de la chimie, et d'observer ce type de comportement. Ah, zut, dommage. Est-ce que ça va partir ? Voilà, donc que vous voyez à l'écran, donc dans le matin, assez tôt, en fait, on observe que les chimpanzés, parfois, vont attraper des feuilles rugueuses, les plier lentement dans leur bouche, les rouler, et tout ça, donc, c'est à peine descendu du nid, alors qu'ils n'ont pas encore mangé, ou bien essayer d'observer un chimpanzé qui, comme celui-ci, qui s'appelle donc Johnny, est blessé, et donc va utiliser une feuille. Donc oui, bien sûr, assez rapidement, on se rend compte que c'est par nécessité qu'on va identifier tel et tel individu, mais aussi que c'est pas simplement pour pouvoir suivre spécifiquement notre protocole, mais qu'il y a vraiment des tempéraments d'individus différents, et que si on suppose que médecine il y aura probablement des caractéristiques qui expliquent la transmission de ces pratiques. Donc juste pour vous donner quelques exemples, les meilleures chaînes opératoires qu'on a pu observer sont celles d'une chimpanzé que j'ai suivie pendant 3 jours et qui avait des alternances de sel et de diarrhée, et qui au bout du 3e jour a consommé des écorces que les locaux connaissent pour avoir des propriétés vermifuges, et donc il a fallu encore la suivre 2 jours de plus pour pouvoir observer la guérison. Donc là, c'est bien un individu particulier, puisque elle était à ce moment-là avec sa mère et ses frères et sœurs, mais qu'elle est la seule à avoir consommé cette plante au prix de gros efforts, et que donc on ne peut pas considérer comme auparavant un comportement de groupe où on essayait de vraiment recenser toutes les plantes consommées, de faire un régime alimentaire et de décrire l'espèce en général. Là, ce qu'on veut, c'est bien connaître l'individu, le comportement de celui-ci. Ça nous a permis de mettre à jour des nouvelles molécules. La même chose pour un chimpanzé qui souffrait d'une entorse, qui a mangé des feuilles qui sont connues pour être antalgiques, et qui nous a mené vers des molécules à activité antipaludique. Donc en fait, si le travail s'inscrit et a pour objectif d'observer un individu, c'est pas un individu seul, c'est vraiment un individu en interaction avec son environnement. Un chimpanzé consomme 300 parties de plantes différentes dans cet endroit. Là, j'ai recensé 300 parties de plantes différentes. Et il faut en même temps essayer d'évaluer son état sanitaire. Donc c'est pas un chimpanzé extrait de son milieu, c'est bien un chimpanzé en interaction avec la forêt et avec les agents pathogènes, les microbes, qu'il faut pouvoir comprendre pour essayer de répondre à cette question. Voilà, donc en gros, je suis arrivée avec un regard naïf que j'ai voulu scientifique, et aujourd'hui, je dois dire que c'est un regard rempli d'humilité, toujours curieux, et surtout insatiable, parce que c'est juste les débuts de cette... de ce travail autour de l'automédication, puisque pour l'instant, on sait qu'ils utilisent des plantes, mais reste beaucoup de questions autour de l'apprentissage, de la découverte, de la transmission de ces plantes. Et ça, effectivement, on ne pourra pas résoudre cette question tant qu'on ne comprend pas les relations sociales entre les individus et les relations de parenté, etc.
Est-ce que vous savez si ça s'observe plus chez les femelles, chez les mâles, chez les individus âgés, chez les jeunes? Comment ça se transmet?
Ça s'observe chez tous les individus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les femelles qui migrent à l'adolescence et qu'il semble qu'il y ait vraiment des particularités propres à chaque communauté de chimpanzés, chaque groupe de chimpanzés, ce qui veut dire que ce sont les mâles qui restent sur leur territoire. Et là, on parle aussi de territoire très marqué, très fort, sur là où ils sont nés, qui seraient les gardiens en fait de ces cultures. Ce qui veut dire que la femelle apprend encore, passé l'adolescence, de modèles qui sont des modèles nés sur le territoire où elles arrivent. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant. Et aujourd'hui, donc, on travaille sur un groupe qui est voisin du premier groupe. Et notre objectif, c'est voir quelle est la partie commune de l'usage de ces plantes et comment une femelle qui arrive perd peut-être ses premiers usages pour en acquérir d'autres et comment ensuite le jeune l'acquiert. Mais selon les observations, il y a vraiment un individu modèle qui est un individu mâle ou femelle entre 25 et 40 ans. Donc ce n'est pas uniquement la mère qui est le modèle de cet apprentissage. Et l'autre point très intéressant, c'est qu'on ne parle uniquement... on ne parle que d'automédication et pas de soins. Donc on n'observe pas de mère qui donne, comme on n'observe pas d'apprentissage actif chez les chimpanzés.
D'accord. Et est-ce que, comme Baptiste avec les loups, vous pouvez écrire la biographie de ces chimpanzés, faire de l'éthologie historique, hein?
Alors on essaie, un chimpanzé vit entre 60 et 70 ans s'il ne rencontre pas trop de menaces, on y viendra après je pense. Donc on n'a qu'une parcelle de leur vie et surtout ils vivent en systèmes sociaux de type fission-fusion. Donc une communauté qui compte 45 individus comme la première qu'on a étudiée n'est jamais rassemblée tout entière et on a des sous-groupes. Et donc pour pouvoir suivre un seul individu dans une forêt d'altitude à 1600 mètres où on a à la fois des pentes glissantes, des marécages, etc., c'est très complexe. Et une fois passé cette étape d'habituation, même avec un chimpanzé qui accepte la présence à 5 mètres, de pouvoir le suivre pendant une journée, c'est très complexe. Donc on est vraiment dépendant de ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et là encore, c'est vraiment exactement ce que décrit Baptiste. On est chez eux et on essaye de faire d'être les plus... prudent possible pour les perturber le moins possible, mais il nous faut énormément de temps pour percer leur mystère.
D'accord. Alors maintenant, je me tourne vers Gilbert Cochet. Vous avez de nombreuses cordes à votre arc, dont celle de conseiller auprès du Conseil de l'Europe, expert de la moule perlière. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comme Baptiste ou Sabrina, plonger son regard dans celui de la moule perlière et en apprendre des choses sur cet animal étonnant et sur soi?
Oui, alors, faire le lien entre la moule perlière, le loup et le chimpanzé, si j'y arrive, alors là...
Bravo.
Voilà. Alors, effectivement, parce que nos chemins évolutifs se sont séparés il y a quelques centaines de millions d'années, donc on est un peu loin. Et c'est vrai que lorsque je suis dans une rivière avec mon aquascope, que je cherche à compter les moules perlières, de temps en temps, je vois une biche qui passe, je vois une autre espèce. Et non, ce que je voudrais dire par là, c'est que ce que je viens d'entendre, le mot qui me vient à la bouche par rapport au lien aussi avec cette fameuse moule perlière, c'est le mot respect. Donc on va respecter les loups parce qu'ils ont un rôle à jouer, parce qu'ils nous touchent, parce que c'est dans notre psychologie, de toute façon, le monde sauvage. On en a besoin. Chimpanzés, ils sont encore plus proches. Eux, c'est quelques millions d'années, si vous voulez, la séparation. Donc, c'est vraiment très proche. Le loup, c'est quelques dizaines de millions d'années. Et ce mot respect, alors pour notre moule perlière, c'est le respect de l'habitat. Parce que la moule perlière, elle se reproduit plus, il y a plus de 1 mg de nitrate par litre. Donc ça, ça nous dit quelque chose sur la qualité de l'eau. Donc on pourrait, grâce à cette moule perlière, si elle est là, elle nous dit quelque chose en quelque sorte, ce mollusque qui ne bouge pas. Qui vit, alors le chimpanzé, 60-70 ans. Alors avec les retraites qui changent, là je pense que ça va... Mais la moule perlière, c'est plus de 200 ans. 200, 220, 230. Et j'ai un ami russe, Valéry Zhuganov, là, qui travaille là-dessus. Et il travaille sur cette longévité pour savoir trouver le secret, bien entendu, de la longévité. Alors, moule perlière, on est enfoncé dans le sédiment et on reste comme ça pendant 2 siècles à regarder passer l'eau. Donc, finalement, elle nous dit beaucoup de choses. Hein. Elle nous dit que c'est vrai que la contemplation, c'est peut-être ce qui nous permet de vivre le plus longtemps possible. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre point que je voudrais vraiment souligner. Vous savez, souvent, on dit, nous sommes des nains sur les épaules des géants. Ben, je suis désolé. En matière de connaissances naturalistes, scientifiques, c'est complètement le contraire. Nous sommes des géants, et avec beaucoup d'humilité, mais sur des épaules de nains. La connaissance naturaliste, avant, elle se limitait au coup de fusil. Et puis on regarde après, ah, il est mort, c'est marrant, il n'est pas de la couleur de celui qu'on avait tué hier. Voilà, en gros, ça, c'était la grande connaissance scientifique qu'on avait acquise. Hein, on classait les marrons foncés, voilà. Alors que là, on a des connaissances inouïes. Vous voyez, j'ai l'immense privilège de présider le conseil scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, et on a trouvé des coprolites, c'est-à-dire des excréments fossiles. Un petit paquet, un caillou, quoi, si vous voulez. Et on s'est dit, d'où vient ce caillou? Alors, on pense que ce sont des excréments anciens de hyènes des cavernes. Ben, on va essayer de le savoir. On a extrait de l'ADN. On a démontré que c'était de la hyène des cavernes, parce que c'est de l'ADN de hyène des cavernes. On a trouvé l'ADN des proies qu'elle a mangées. Et puis, la hyène des cavernes, comme nos chiens, comme nos chats, se lèche le pelage régulièrement. Et, de fait, avale des pollens, des morceaux de... Donc, on a trouvé de l'ADN des espèces végétales. On a reconstitué le milieu naturel. Imaginez, avec un caillou qui ressemble à rien, vous vous dites l'espèce, ses proies et l'habitat dans lequel il vit. C'est-à-dire, on est en train de changer complètement de monde. Complètement. Et autre exemple, je travaille beaucoup sur les rivières, on a découvert ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Vous venez avec ce verre, là, par exemple, vous allez au bord de la rivière, hop, vous mettez de l'eau là-dedans, et ensuite, vous le posez, vous concentrez un petit peu, et puis vous analysez, et vous avez toutes les espèces qui sont présentes dans la rivière. Alors c'est inouï. Donc, au niveau de la connaissance, c'est assez incroyable. Mais dans le même temps, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tous les deux, c'est ce mot d'humilité. Parce que, en fait, chaque fois qu'on découvre des nouveautés, ben on le sait bien, on ouvre des portes, de nouvelles portes. Et on le dit, nous, en tant qu'enseignants, nous préparons les futurs professeurs de sciences de la vie et de la terre à l'université à Lyon et à l'école normale supérieure, on leur dit toujours, la connaissance double tous les 5 ans. Et je veux bien le croire. Donc vous imaginez un petit peu tout ce qui reste à faire, à découvrir encore. Voilà.
Alors je voudrais revenir au loup et au chimpanzé comme des sujets, hein, et des sujets dont on peut raconter l'histoire. Baptiste, vous avez écrit une fois une merveilleuse histoire que je reprends tout le temps et je bassine tout le monde avec cette histoire. C'est l'histoire des Iroquois qui, quand ils se réunissaient pour palabrer, désignaient quelqu'un parmi la troupe qui devait parler au nom du loup. Et cette histoire, ça vous a fait réfléchir à la notion de diplomatie, au diplomate. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est le personnage qui nous manque et qui nous permettrait de négocier avec les loups, sachant que c'est un peu compliqué en ce moment?
Oui, c'est très compliqué. L'histoire n'est pas de moi, hein. Elle vient probablement des Iroquois, mais par des détours ethnographiques que j'ai jamais réussi à retracer. Donc elle reste maintenant comme un conte, et en effet c'est un conte qui est assez fort. qui dans cette assemblée parle au nom du loup. Il faut permettre que quelqu'un parle au nom de ces êtres qui, s'ils ne sont pas représentés, disparaissent. Et on ne peut plus prendre en compte leur rôle et leur place décisive dans les écosystèmes qu'on partage avec eux. Et donc, en effet, c'est vrai que c'est une partie de l'inspiration qui est à l'origine de cette métaphore qui consiste à essayer de penser, en termes de diplomatie, nos rapports au loup. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément de transformer ce qui est à l'origine une métaphore en un concept très sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas au sens métaphorique pour moi qu'il s'agit de faire de la diplomatie avec la faune sauvage, et en particulier avec la faune sauvage avec qui nous avons des relations conflictuelles. Et je crois que c'est une manière de formuler les problèmes, c'est ça qui est, je crois, l'essence de la philosophie, c'est la tentative de reformuler ou de décrire autrement l'expérience partagée, dessine d'autres chemins possibles pour l'action. Elle est capable de libérer l'imagination pratique dans des directions qui étaient inconcevables autrement. Si vous considérez que le loup est un animal machine ou que c'est une sorte d'entité biologique déterminée par ses instincts, et fatalement, le seul type d'interaction que vous pouvez entretenir avec elle, c'est le rapport de force pour contrôler ou réguler sa dispersion ou son action. Si par contre vous faites l'acte à l'origine fictionnelle d'évoquer la possibilité de rapports diplomatiques, le champ des possibles s'ouvre. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de diplomatie au même sens que nous faisons de la diplomatie ou que nos diplomates encravatés font de la diplomatie dans les ambassades. Mais il s'agit de postuler qu'il existe des capacités chez les animaux non humains qui ne nous condamne pas au rapport de force envers lui. Et ces capacités, elles sont très claires, elles émergent par l'éthologie cognitive depuis maintenant quelques décennies, mais je dirais à un autre niveau, elles étaient présentes bien antérieurement. Le point qui m'intéresse, pour essayer d'exemplifier cette idée que c'est pas au sens métaphorique que je parle de diplomatie, c'est la territorialité. La territorialité chez les loups, c'est un dispositif qu'on peut expliquer de plusieurs manières, de manière évolutionnaire, de manière écologique, peu importe, ce n'est pas l'explication qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que fait la territorialité entre les meutes. Ça a été montré en écologie comportementale, c'est le travail d'Alcock, par exemple. On appelle ça l'effet du cher ennemi. Dès lors que des frontières territoriales sont bien mises en place entre deux meutes, le taux d'agressivité mutuelle baisse de manière très significative. Et en fait, si on veut bien regarder en face ce qui se passe là, c'est philosophiquement assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer qu'il existe des dispositifs collectifs de pacification en dehors de l'espèce humaine. Je veux dire, ça va à l'encontre du grand récit dont nous sommes les héritiers, suivant lesquels la nature, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la guerre de tous contre tous. On appelle ça l'état de nature. D'ailleurs, le loup est un loup pour l'homme, comme on le répète ad nauseam. Et puis ensuite, l'humain apparaîtrait, et lui, par les capacités conventionnelles, inventerait la possibilité de faire la paix et de passer des conventions.
Alors pourquoi il ne fait pas la paix avec le monde sauvage, alors, s'il est capable de faire la paix entre hommes ?
Eh bien, il me semble que précisément, parce que pendant très longtemps, nous sommes héritiers de cette conception du monde des modernes, on considérait comme inconcevable de pouvoir avoir des relations autres que du rapport de force avec les non-humains. Et là, il est en train de se passer quelque chose dont vous faites le diagnostic. Moi, je partage vraiment le diagnostic que vous faites sur cette nécessité de la nouvelle alliance, et même au-delà sur ce paradoxe qu'est le retour du monde sauvage parmi nous. Et à côté de ça, théoriquement, l'éthologie cognitive, la biologie évolutionnaire, et puis même les sciences sociales sont en train de d'ébranler le grand récit qui était le nôtre. L'anthropologie de la nature fait ça magistralement, en nous montrant constamment qu'il y a autour de nous des peuples qui vivent dans un tissage plus subtil que nous avec leur écosystème, leur environnement donateur, les peuples premiers, qui eux trouvent naturel de penser en termes diplomatiques ou politiques leur relation avec le vivant. Auparavant, on pensait que c'était des arriérés ou des conceptions archaïques du monde. Et maintenant, l'anthropologie nous dit, tiens, mais regardez, si vous êtes plus fin, si vous êtes moins ethnocentrique, vous voyez qu'ils font mieux que vous certaines choses que vous ne savez plus faire. Par exemple, ils cohabitent mieux que vous. Et alors ça c'est assez décisif comme bouleversement.
Alors pratiquement, on négocie comment avec le loup ? Comment on pense comme un loup, pour reprendre une phrase d'Aldo Leopold ?
Comment on négocie ? Alors tout le problème, c'est... Moi, ce que j'essaie de défendre comme idée, c'est que
C'est qu'il s'agit de trouver des modes de communication et des modes de communication vigoureux. Hein. Mon propos n'est pas angélique. Je pense que c'est très difficile de cohabiter avec un grand prédateur comme le loup et ce ne sera jamais la paix parfaite. Mais dans les faits, on voit que les loups entre eux sont capables de se communiquer ou de se signifier des limites collectives. Et on voit qu'ils ne comprennent pas les limites que nous leur imposons dans notre langage. Et d'ailleurs, c'est cette intuition qui est à l'origine du travail de ce biologiste que j'aime beaucoup, le travail de Dave Housband, qui est biologiste de terrain et qui travaille d'un côté sur les loups sauvages et de l'autre sur les relations entre le loup et l'élevage. Et il dit, mais c'est bizarre parce que moi, je travaille sur les loups sauvages et je me rends compte que constamment, en faisant des marquages odoriférants, ils arrivent à s'empêcher de passer des frontières, alors que nous, on fait des clôtures énormes pour les empêcher de passer, et ils passent toujours. Alors, on a des moyens physiques très efficaces, et ils passent, et eux, ils partagent de l'information volatile, et de fait, ils ne passent pas. Et donc, il se dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'utiliser ce langage pour parler aux loups ? Et il invente une technique qui est très intrigante, qui, dans les faits, a marché au début, qui marche moins bien après. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler de technique miracle, il n'y a pas de technique miracle. Par contre, il y a cette tentative de poser le problème du point de vue du loup, depuis sa perspective, en se déplaçant et en lui reconnaissant des aptitudes à comprendre, à apprendre, à faire des choix, et ce faisant, à essayer de lui faire passer les messages les plus clairs possibles. Et là, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font aujourd'hui, notamment le travail de Jean-Marc Landry, que je trouve remarquable, pour essayer de s'insérer finement dans son éthogramme, dans sa manière de se comporter, pour lui envoyer des messages suffisamment vigoureux pour que un statu quo, un modus vivendi, soit possible.
Alors, je me tourne vers Sabrina. Dans les forêts d'Ouganda... Bonsoir Cyril. Oui, dans les forêts d'Ouganda avec les chimpanzés, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des problèmes de voisinage, est-ce qu'il est possible de négocier quelque chose avec eux ?
Oui, donc effectivement depuis 8 ans, on travaille sur une nouvelle communauté, je ne sais pas si on peut avoir les images, donc au nord du parc de Kibale, donc qui est une aire protégée, qui est censée donc être l'endroit où vit la grande faune, et effectivement les hommes ont voulu créer des barrières, des frontières géographiques, donc autour du parc aujourd'hui il y a des tranchées qui sont destinées à empêcher les éléphants de passer. Malgré tout, on a des infrastructures. Donc, par exemple, là, on a une route qui traverse le parc national avec, de façon amusante, un panneau qui demande de ralentir et le chimpanzé qui traverse devant. On a aussi donc, des grandes étendues qui marquent vraiment de façon très claire la frontière entre le parc donc, qui est... mince, qui est là et où on a 800 espèces végétales, en gros sur environ 50 hectares, c'est ce qu'on dénombre. Et puis donc des monocultures où là on a une seule espèce, donc vraiment l'endroit où au niveau végétal on a une espèce dominante. Très peu de biodiversité. Donc ça, déjà, ça marque de façon très nette l'espace de l'homme et l'espace de la grande faune. Mais effectivement, ces frontières géographiques, elles sont dans la tête des humains. Elles sont parfois marquées clairement, et comme ici par exemple. Et les éléphants réussissent à les franchir. Alors soit en faisant petit à petit glisser de la terre, soit en les contournant par les marécages. Évidemment, il n'y a pas que les éléphants qui les franchissent, les chimpanzés aussi. Malgré tout, donc il y a tout le temps des stratégies qui se mettent en place. Donc les humains aujourd'hui construisent des huttes à la bordure du parc pour essayer de garder leur plantation, ce qui veut dire que au quotidien les enfants comme les femmes vont faire une garde régulière pour essayer de repousser toute cette grande faune qui vient pour manger leur culture. De l'autre côté, il y a vraiment un conflit qui se met en place. Les parcs, les pièges qu'on a vus qui prennent le renard dans le film prennent ici les chimpanzés, et donc ce sont des victimes collatérales, hein. Les humains ne veulent pas manger les chimpanzés. Dans cette zone-là, théoriquement, il est connu que les bateaux ne mangent pas de chimpanzés. Et malgré tout, donc, on voit que certains se font prendre à deux reprises. Une collaboration, donc, là aussi, qui est assez étonnante, puisque cette femelle qui, depuis 2 ans, ne portait plus son fils, lorsqu'il a subi sa deuxième mutilation, a recommencé à le porter sur son dos, bien qu'il pesait déjà très lourd. Mais une sorte de, finalement, de coévolution et d'adaptation assez étonnante. Donc là, on a la fameuse tranchée qui a un arbre qui est tombé et qui donc permet aux chimpanzés d'aller regarder dans les cercles. En fait, vous allez voir apparaître un chimpanzé, hop, qui monte le guet et donc qui fait attention si les gardiens sont là avant de se décider à rentrer. La même chose donc ici avant de rentrer aussi dans le pré, et puis cette femelle qui est aussi en attitude de guet. Donc en fait ce comportement qui auparavant était mis en place vis-à-vis de prédateurs probablement de façon très très ancienne, qui ne sont plus là, hein. Il n'y a plus de prédateurs en dehors de l'homme dans ce parc, mais elles se mettent en place pour réagir à la présence de l'homme. Ça marche plutôt bien, voilà le chimpanzé qui revient avec son butin. Donc en fait, ce qu'on s'est demandé, c'est
du maïs, là, c'est ça?
C'est du maïs, ouais. S'ils adaptaient en fait les raids qu'ils font pour protéger leur territoire habituellement. Les chimpanzés mâles patrouillent, et donc généralement ce sont surtout les mâles, et en fait il se trouve que les femelles aussi se prêtent au jeu. Et donc là vous voyez une vieille femelle, une mère avec son petit, et donc finalement tout le monde va être engagé dans cette rencontre avec l'espace anthropique. Mais de façon étonnante, comme c'est aussi souligné dans le film, il y a une espèce de course à l'adaptation, et finalement les chimpanzés qui sont connus comme étant uniquement diurnes, grâce au piège caméra qu'on a posé à la bordure du parc, on voit que finalement la majeure partie des pillages se font pendant la nuit et non pas les nuits de pleine lune comme le rapportent les villageois. En fait, les villageois nous disent « Ah, mais on sait que les chimpanzés viennent de temps en temps la nuit, quand c'est la pleine lune, ils arrivent à venir, et quand on regarde, c'est pas du tout en phase avec la lune, c'est au contraire pendant la nuit noire. » Donc on suppose que peut-être ils ont commencé par venir au moment où il y avait encore la lune, et petit à petit voilà. Et donc des comportements d'adaptation, la même chose pour les traversées de route, la route en fait est pratiquement une autoroute, hein, avec un fort trafic, plus de 100 véhicules. Alors pas ici, on a utilisé les vidéos les plus explicites, mais on voit le mâle alpha, donc Elliot, hein, puisqu'ils ont tous des noms, qui attend que le jeune s'engage dans la traversée avant de se décider lui-même à traverser. Il a laissé passer les autres adultes. Et donc là encore des comportements de guet, et des groupes qui sont beaucoup plus grands au moment de risques importants pour la traversée de route, pour le pillage, que lorsque les chimpanzés sont en forêt normalement. Et donc les mâles qui prennent le leadership comme ça, dans 80% des cas de traversée de route, contre seulement 50% des cas en forêt. Donc une sorte de mise en place de collective, d'adaptation, donc de flexibilité comportementale à ces menaces.
On voit que les barrières instaurées par les hommes sont dans un langage que les chimpanzés ne perçoivent pas, ne comprennent pas.
Exactement.
Vous, en tant que diplomate, si on peut dire, qu'est-ce que vous suggéreriez pour que on puisse leur faire comprendre.
Alors, je vais passer un peu plus vite, hein, puisque j'ai
les barrières.
Des réponses sur la diplomatie qu'on met en place. Alors ça c'est un des aspects évoqués précédemment par Baptiste. Dans certaines ethnies, en fait, ces animaux, que ce soit les bonobos, les chimpanzés, etc., représentent quelque chose de particulier. Chez les Batéké, donc là où on travaille en République démocratique du Congo sur les bonobos, le bonobo est un homme qui a trahi. Donc c'est un homme qui, n'ayant pas payé sa dette, est retourné en forêt, n'avait plus d'argent pour se payer des vêtements, donc est allé nu, finalement a dû se couvrir de poils pour protéger son corps. Et donc il est respecté parce que c'est un cousin. Et donc, ces batéqués, quand ils se sont rendus compte que dans leur forêt, le gibier venait à disparaître, ils ont utilisé cette légende, ils ont ravivé ces rites autour du bonobo, qui sont aussi présents dans des danses, etc., pour expliquer qu'il fallait protéger le cousin et qu'il lui fallait sa forêt. Et donc ça, c'est un moyen, je pense, pour renouer le contact et reconnecter l'homme à sa nature. Et dans ce cas-là, c'est une initiative de la part des communautés locales. C'est pas des Blancs qui arrivent et qui disent « il faut protéger votre faune, on a fait des bêtises chez nous, il ne faut pas que vous les reproduisiez ». C'est vraiment quelque chose qui vient d'une prise de conscience et d'un besoin de ces interactions fortes avec la forêt. Dans notre cas, en fait, pour essayer de reconnecter le parc aux hommes, on utilise les abeilles. Donc on a un projet de clôture de ruches qui en fait sont des ruches suspendues, reliées les unes entre les autres par un câble, et qui ont pour effet, quand l'éléphant arrive et touche le câble, que les abeilles attaquent l'éléphant et donc le ramènent dans son territoire.
Parce que l'éléphant ne craint rien sauf les abeilles, c'est
exactement
ça ?
Et donc ça permet de générer des bénéfices. Et les humains qui ont été chassés en fait de ce parc il y a quelques décennies ne voient le parc comme que quelque chose de négatif qui n'entraîne que des inconvénients. Et là, de cette façon, il y a quand même des bénéfices qui sont visibles dans un endroit où la pauvreté est vraiment extrême, et que évidemment on ne peut pas s'affranchir de cette question des bénéfices. Et enfin, juste pour revenir sur la question vraiment de diplomate, bah nous on a nommé des enfants jeunes ambassadeurs des grands singes, donc on a vraiment le titre d'ambassadeur, et eux dans les écoles vont donc expliquer pourquoi ça leur semble important de protéger les grands singes, non pas comme espèce simplement emblématique, mais comme espèce régénératrice de la forêt, cette forêt qui apporte théoriquement ressources alimentaires, médecine, eau, à condition qu'on autorise à nouveau l'accès aux populations locales à ces parcs, et pas seulement aux chercheurs et aux touristes, même si les touristes génèrent des revenus.
Gilbert, on dit dans le film que l'époque est paradoxale, puisque de grands animaux reviennent en France et en Europe, de nombreux petits animaux disparaissent. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour négocier un retour de la petite faune et de la petite flore dans nos campagnes ? Et deuxième question, par rapport à cette grande faune qui revient, c'est super, mais il commence déjà à y avoir des problèmes, des frictions, des problèmes de voisinage. On parle de vautours qui chassent les agneaux. Bientôt, ils vont emporter les enfants dans les airs. On flingue les bouquetins parce qu'ils pourraient transmettre des maladies aux bêtes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous en France ?
Alors, je crois que, comme ce qu'on vient de voir, il faut rapprocher l'homme et l'animal sauvage et faire feu de tout bois, si je puis dire, notamment au niveau des témoignages. J'ai un exemple très précis dans le Massif central où on a des éleveurs qui ont mis des placettes d'écarissage avec pour les brebis qui sont mortes. Il nous racontait, il y avait un témoignage qui passait à la radio, qui était vraiment merveilleux, il faudrait le faire passer plein de fois. Il expliquait qu'avant, une brebis était morte, il la déposait, il mettait une bâche par-dessus, puis il attendait des fois une semaine, 15 jours, que le camion veuille bien venir récupérer sa brebis, la mettre dans le camion, ensuite passer dans une autre ferme où il y a une autre brebis morte, donc apporter la maladie de la première à la deuxième, puis la deuxième, etc. Et donc faire comme ça des centaines de kilomètres pour aller à l'écarissage. Et depuis qu'il a fait sa placette d'écarissage, eh bien, il me dit, je mets la brebis, au bout d'une heure, je vois les vautours qui arrivent, et en 20 minutes, la brebis s'est terminée, il n'y a plus rien du tout. Complètement nettoyée. Et en plus de ça, ça a été chiffré, donc c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par département. Mais bon, le chiffrage, peu importe. Par contre, quand on a de tels témoignages extrêmement positifs, à ce moment-là, il faut surfer là-dessus, et faire passer, ça devient des ambassadeurs. Et là, on a des diplomates, et il faut effectivement des ambassadeurs. Et c'est la Fédération de chasse, d'ailleurs, de la Lozère, qui a utilisé ces ambassadeurs pour aller expliquer aux éleveurs de tas de territoires tout l'intérêt qu'ils avaient à avoir des placettes d'éclaircissage. Et comme vous avez dit très justement, ce n'est pas le blanc qui vient avec la solution toute faite. Et là, ce n'est pas le naturaliste de la ville qui vient avec sa solution toute faite. C'est par contre un éleveur de la campagne, de la limite, la Lozère et l'Ardèche, qui va expliquer à d'autres éleveurs, ben voilà comment ça se passe chez moi, et on a tout intérêt. Et depuis, ils ont pu obtenir une centaine de placettes. Donc voilà, donc ça a réussi. Et puis après, bon, alors c'est vrai qu'on a une sensibilité par rapport au monde sauvage en France qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a 2000 couples de vautours fauves dans les Pyrénées, les Causses et dans les Alpes. 2000, ça commence à faire beaucoup. Vous allez en Espagne, il y en a 24 000. Ça ne fait pas beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. On a 300 phoques gris sur la façade atlantique. Les pêcheurs commencent à dire, mais ça fait, ils mangent tous les poissons, il n'y a plus rien, il faut commencer à les réguler, tout ça. Il n'y en a que 95 300 au Royaume-Uni de phoques, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, et je pourrais multiplier les exemples, le chevreuil par exemple, on a 2 millions de chevreuils en France, 2 millions c'est énorme, dans un pays qui fait 550 000 km², dans un petit pays, l'Allemagne, 350 000 km², il y a 8 millions de chevreuils. Alors, comme on avait dit avec Denis Chessou, assez haut de mon amour, mais le chevreuil allemand est plus respectueux, il est discipliné, si vous voulez. Alors que c'est bien connu, le chevreuil français, il n'écoute pas quand on lui dit de ne pas manger le maïs, il fait que des bêtises, voilà. Et il avait rajouté, le chevreuil allemand est un protestant, et le protestant est bien droit, et voilà. Mais voilà, donc ce sont des histoires d'hommes, en fait, tout ça. Et ça me fait penser à ces Américains qui disent « ça ne sert à rien de gérer les rivières et les saumons. Les rivières et les saumons savent faire du saumon en quantité gigantesque, tout seul. Ce qu'il faut gérer, c'est la tête des hommes. » Alors, pour répondre quand même à la question plus précisément, la disparition des petites espèces, donc les espèces de la campagne, les passereaux, les granivores, etc., les insectes, là, ben, on a une petite chance. Le bio est en train de progresser. Croissance à deux chiffres, 20% cette année, même pas avant même la fin de l'année, 20%. Alors je ne sais pas, il me semble que quand on a une croissance à deux chiffres, on saute dessus, quoi. Alors c'est vrai que parfois j'ai fait des conférences en disant, il y avait des élus, je dis surtout ne faites pas du bio parce que c'est une croissance à deux chiffres, vous risqueriez de gagner de l'argent, alors que c'est tellement bien que de voir tomber les subventions pour pouvoir polluer allègrement voilà, notre population. Alors je crois que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer, et c'est par là. C'est-à-dire que le jour où l'espèce humaine exigera une qualité de nourriture parfaite, avec le moins d'intrants possible, que ce soit les engrais chimiques, les fameux nitrates, les phosphates, et bien entendu les pesticides, eh bien on y gagnera. Nous serons à la fois riches et bien portants. Riches d'une grande biodiversité, et puis bien portants... Mais pour l'instant, on est pauvre en biodiversité et on est malade de plus en plus. Donc voilà, il y a un basculement, mais qui n'est pas encore fait. Par contre, c'est vrai que le basculement avec la grande faune, celui-là, il est réalisé. Il est absolument extraordinaire. Et ça, il faut vraiment appuyer là-dessus. Inrêvable il y a quelques décennies. Je suis moi aussi rhône-alpin, je suis lyonnais. Je peux vous dire qu'il y a une quarantaine d'années, mais jamais, 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 j'aurais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, que dans la région Rhône-Alpes, les quatre espèces de vautours allaient revenir nicher. On a le vautour fauve, le vautour moine, le gypaète, le vautour percnoptère, les quatre sont en train de nicher. Que le loup allait revenir, que le lynx était revenu, que le castor allait se répandre, que la loutre allait revenir, et j'en passe et des meilleurs. Donc on a comme cela un retour absolument inouï. Et c'est vraiment un basculement, un bouleversement culturel énorme. Quand on lit les textes anciens, un ouvrage sur l'ornithologie du Dauphiné, 1850. Je donne juste cet exemple. Et l'auteur, il dit, ben voilà, dans ce petit village, il y a eu 18 faucons cobèzes qui se sont arrêtés. C'est un faucon de Hongrie, du pays des steppes, tout ça. Magnifique, tout ça. Bon. Puis après, il dit, bon, mais vu que dans le village, tout le monde est chasseur ou presque, dès le lendemain, ils étaient tous tués. Vous voyez, il y avait de l'espoir. Hein. C'est-à-dire que on ne sait pas comment ils avaient pu traverser d'autres villages. Mais voilà, la règle, c'était ça. Moi, j'ai une diapositive terrible que j'ai faite avant 1976, avant la loi de protection de la nature, où on a une dizaine de rapaces. c'est ce qu'on a voulu montrer dans le film, hein, la chouette effraie clouée aux portes des granges. Moi, je l'ai vue. Et puis, il y a 3 semaines, avec mon épouse, on était sur les hauts plateaux du Vercors, dans la réserve biologique intégrale, et où il y a des très belles densités de cerfs. Puis tout à coup, on entend un cri. C'était un loup qui hurlait, enfin un loup, une meute de loups. Ça a duré 3 quarts d'heure. On entendait distinctement les adultes, les louveteaux. Et il y avait un autre loup qui répondait pour dire « moi, je suis là aussi ». Enfin bon, je connais pas parfaitement le langage du loup, hein, mais voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que à cela s'ajoute, bien sûr, l'immense bonheur de savoir que la présence est là. Moi, j'ai vu le loup dans les Abruzzes aux prises avec un ours. Il mangeait un cadavre de vache. Et au bout d'un moment, le loup, il était tout seul. L'ours se tourne vers lui, puis lui fait signe qu'il faut qu'il dégage. Il était 2h du matin, il y avait de la neige et tout ça. Le loup est parti et est allé vers nous avec mon ami italien Vincenzo. Et j'avais le rond de la jumelle, la tête du loup dans le rond, avec ses yeux. Et c'est vrai que ce regard, il y a une place dans le cerveau humain pour faire en sorte que ce regard, il soit présent et que plus jamais de notre vie, il pourra s'effacer. Donc ça, c'est bien la preuve qu'on a absolument besoin de cette proximité avec le monde sauvage. Et je terminerai simplement avec si vous avez l'occasion d'aller visiter la réplique de la grotte Chauvet, faites-le. Moi, j'ai eu le privilège de visiter la vraie grotte il y a quelques années. Et je peux vous dire que quand vous voyez tout ce bestiaire, alors on peut le visiter en se disant « Ah, les hommes, ils ont bien peint et tout ça ». Puis on peut visiter aussi en se disant « Quel bestiaire, plein d'espèces, etc. » Nombreuses, diverses, etc. Et donc, si l'homme a eu le besoin de représenter tout cela, c'est qu'il y a cette nécessité de cette proximité entre l'homme et l'animal sauvage.
Justement, laissez-moi une minute. Là, je sens qu'il y a plein d'animaux, il faut que je leur parle. Ils sont là.
Merci Cyril. Et on va demander à Sabrina, la diplomate, de nous décrypter. Oui. Baptiste, vous expliquez qu'il y a une éthique de la relation entre deux entités qui postule que ce qui est bon pour la relation est bon pour les deux entités séparément, et vice-versa, ce qui est bon pour les deux entités peut être bon pour la relation. Qu'est-ce que, dans la relation de l'homme avec le loup, est-ce qu'il est possible de dégager des conditions pour que on trouve des conditions pour que ça satisfasse le loup, que ça satisfasse l'homme. Et dans vos écrits, vous parlez même quasiment que le loup pourrait sauver l'agneau dans nos montagnes, pourrait bénéficier à nos montagnes et aux bergers, ce qui n'est pas forcément intuitif.
Sauver, je crois que je ne dis pas ça. Hein.
Non, c'est moi qui vais un peu plus loin.
Bénéficier, par contre, j'ai pu le soutenir ou le sous-entendre, parce qu'il me semble que quand on regarde assez finement la situation socio-économique du pastoralisme ovin, qui est le premier touché par le retour du loup, en fait, on se rend compte que ce pastoralisme est en crise depuis bien, bien antérieurement au retour du loup, et que le loup n'est pas du tout la cause première. C'est plutôt la goutte qui fait déborder le vase, et c'est surtout la goutte sur laquelle on peut tirer, alors que les autres causes de cette crise socio-économique de la profession sont plus difficiles à contrer, parce que c'est des enjeux économiques complexes de l'ordre de la mondialisation, c'est la PAC, c'est des histoires bizarres avec les Néo-Zélandais et Greenpeace, enfin je ne vais pas vous parler de ça, mais... conséquemment, cette profession qui est assez sinistrée, qui a une situation difficile... voit venir cet animal qui rend les conditions de travail un peu plus compliquées, qui force l'éleveur, ça c'est vrai, à changer sa manière de travailler, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on prend un peu de recul, ce qui n'est pas évident, je l'entends, hein, moi je respecte parfaitement la détresse des éleveurs qui sont dans une situation très compliquée, mais avec un peu de recul, quelque chose d'assez intriguant, c'est que par exemple, le métier, le pastoralisme ovin, n'a jamais été aussi bien représenté au gouvernement que depuis le retour du loup. Ils ont acquis une visibilité syndicale, ils ont acquis un droit de s'exprimer et que leurs besoins soient reconnus, que leur profession soit reconnue, qui était absolument minoritaire auparavant, parce que les grands syndicats des plaines Beauceronne étaient dominants par rapport aux intérêts des petits pasteurs. Mais au-delà de ces... Et ça, ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'alliance objective. C'est que derrière des conflits qui se jouent à une échelle, à une certaine échelle, visible, souvent spectaculaire, il y a parfois des alliances objectives et que tout le problème de la diplomatie, c'est de faire émerger ces alliances vitales entre des humains ou des activités humaines et une certaine faune sauvage. Justifier en fait la pertinence de cohabiter avec eux. Et il y a un exemple qui m'intéresse beaucoup de ce point de vue-là, c'est l'exemple de l'ours dans les Pyrénées. L'ours pose des problèmes relativement analogues avec le pastoralisme ovin, à nouveau, en grande partie, même si c'est moins aigu. Mais il y a toute une série d'éleveurs qui devraient donc, si on croit à la logique classique, être opposés au retour de l'ours, qui au contraire défendent que l'ours est un allié du pastoralisme. Alors ça, c'est très intriguant. Et en fait, ils sont tout simplement très fins et ils ont saisi qu'il y a des alliances objectives possibles entre la proie et le prédateur. En fait, la thèse qu'ils soutiennent, c'est que le loup travaille pour le plein emploi dans la montagne. Parce que sa présence, en effet, rend impossible des grands troupeaux extensifs avec personne sur place. Conséquemment, il exige une intensification du gardiennage. Il faut mettre plus de bergers. Et conséquemment, le métier la montagne étant désertifiée, le métier ayant perdu son contingent, les bergers vont revenir et ça lutte contre la désertification et ça produit plein emploi. On a typiquement... ce genre d'argument, ce genre d'exemple me fascine. Je travaille aussi sur l'exemple des éléphants de Lucy King et Frank Wolrath qui ont eu cette fameuse intuition d'utiliser les ruches. Et parce que précisément, ça exemplifie ce qui est pour moi décisif. Je crois qu'on hérite d'une conception de la morale à l'égard de la nature qui est faussée et qui consiste à toujours penser en termes de priorité. Qui faut-il valoriser ? D'abord les loups ou les éleveurs, les baleines ou les pêcheurs japonais sous-payés ? Et avec cette idée que tout le problème, c'est de prioriser et que bien évidemment, comme nous sommes humanistes, on va toujours d'abord prioriser les humains. Mais je crois que c'est la formulation même du problème qui est fausse. Comme vous l'avez dit, le point sur lequel on s'est trompé, c'est que les humains sont constitués de leur relation avec le monde et avec le vivant. Et ils n'en sont pas extraits, ils n'en sont pas séparés. La question devient, est-ce qu'on peut imaginer des mesures qui ne sont pas pour l'un contre l'autre, ou au détriment de l'autre, mais qui sont pour le bénéfice de la relation elle-même, avec cette idée qui est évidente comme intuition quand on se penche sur nos relations amoureuses ou nos relations amicales, que ce qui est bon pour la relation entre deux êtres est bon pour les deux êtres. Et toute la question devient, est-ce qu'on peut orienter son imagination vers ça ?
Est-ce qu'on peut chercher ça ? Des mesures qui sont bonnes pour la relation elle-même. Et il me semble qu'il y a toute une série d'exemples qui peuvent émerger, qui sont peut-être libérateurs.
Et alors, Gilbert, vous avez produit récemment une étude sur les bénéfices économiques de la biodiversité. Donc, ça favorise la biodiversité d'un côté et les hommes de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine un peu délicat. Parce que quelque part, on met de l'argent derrière des animaux et on dit, voilà, ils peuvent vous rapporter tant, donc il faut les préserver. Et puis quand on y réfléchit, si on n'avait pas fait ça, les baleines, probablement qu'il n'y en aurait plus. Donc grâce à l'observation des baleines, au whale-watching, eh bien, on a pu comme cela préserver. Alors il y a actuellement, c'est vrai, cette tendance, de ce développement de ce que j'appelle l'économie de la contemplation. C'est vrai qu'il y a l'économie du prélèvement, et ça c'est ce qu'on a fait depuis très longtemps, on prélève des ressources naturelles, on les épuise, et puis on accumule des déchets. Maintenant, quand vous avez l'économie de la contemplation, c'est une économie qui peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Vous allez au Louvre, vous regardez la Joconde, vous avez payé pour ça, vous partez pas avec la Joconde sous le bras. Elle est toujours là, et quelqu'un d'autre peut venir la voir. Alors, il y a un calcul qui a été fait par le Parc national de Porquerolles. Il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est tellement démonstratif. Un mérou vivant, dans sa vie, il rapporte à peu près 400 000 euros. Alors, comment il fait pour rapporter 400 000 euros ? Ben, c'est tout simple. Il est vivant et il le reste. Il vit à peu près 30-40 ans. Vous avez une plongée, les plongeurs arrivent. Oh, il est beau, le mérou. Voilà, je paye, je repars. Le lendemain, comme le mérou n'a pas été tué, vous avez tous suivi hein, le raisonnement, le mérou est toujours là. Donc, oh, qu'est-ce qu'il est beau, le mérou. Et hop, je paye à nouveau. Et ça dure comme ça des années, des années, des années, des années. Et quand on a tourné le film, vous avez vu, on voit les poissons là, qui sortent un petit peu. Et c'était un endroit, là, on n'y était pas, mais on nous a raconté, où il y avait un pisciculteur qui élevait des truites et des saumons. Et ce pisciculteur, en Écosse, voilà, hein, c'est ça, en Écosse. Et il y a un balbuzard, une espèce d'aigle pêcheur, qui vient lui piquer ses saumons. Alors il dit, bon, ben... Alors, des fois, je dis, je suis pas gentil là quand je dis ça, mais si ça arrivait en France, il y a les trois solutions qu'on appliquerait, soit l'une, soit l'autre, soit les trois à la fois. La cellule psychologique, la subvention, et puis on finit par sortir le flingue et on déglingue le... Voilà. Et après, le problème est réglé. Comme vous l'avez dit, c'est unilatéral hein, cette fois-ci, c'est pas un système de relations. Là, on est en Écosse, le gars un peu pionnier, il dit, il faut que je trouve une solution. Il se fait un petit bassin à côté et il met les saumons et les truites qui ne sont pas très beaux, qui ont des mycoses, des trucs comme ça. Et impeccable, le balbuzard, il vient lui prendre les vilains saumons. Il a réglé le problème. Mais il ne s'arrête pas là. Il se dit, je vais mettre un petit affût. Alors il met un petit affût, puis les gens viennent, font des photos du balbuzard qu'il capture, font des films, puis il fait payer. Donc, alors il gagne sur les deux tableaux. Mais la morale de l'histoire est extraordinaire. Au bout d'un certain temps, son affût lui rapporte plus que sa pisciculture. L'économie de la contemplation est devenue meilleure que l'économie du prélèvement. Donc voilà. Alors on a des tas d'exemples comme cela. Et c'est vrai que cet écotourisme lié à la faune sauvage, il faut faire attention aux dérives. Mais il est tellement intéressant. Moi, il se trouve que je fais la formation des accompagnateurs de moyenne montagne et ils sont très friands de ce genre d'informations pour pouvoir les montrer à leurs clients, encore une fois, en délivrant en même temps un message et en faisant passer de plus en plus de respect par rapport à la faune sauvage. Mais c'est une approche intéressante.
Alors, il reste 3 minutes. Je vais juste vous poser à tous les trois une question tirée... toujours des réflexions de Baptiste, où vous dites qu'il faut arrêter d'opposer les écolos ou les gens qui s'intéressent à la nature et ceux qui s'intéressent aux humains. Hein, les écolos sont des fachos et les autres sont des humanistes. Il faudrait dépasser cet antagonisme, aller vers un humanisme élargi, un humanisme augmenté. Est-ce que tous les trois, vous voulez parler de ça ? Vous avez une minute chacun.
Donc, une minute. Alors, je calcule.
Sabrina.
Non, c'est bon, ça y est. Alors, ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire, c'est cette opposition dont on est héritier, avec d'un côté souvent des conservateurs qui se disent humanistes et qui renvoient aux gens qui s'intéressent au non-humain,
l'idée qu'il ferait passer les humains après et que conséquemment il ne reconnaîtrait pas la valeur absolue de l'existence humaine et donc que ce seraient des terroristes avec toute cette rhétorique vraiment douteuse. Et il me semble que, en fait, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris et que le monde autour d'eux est en train de comprendre. C'est ce que l'écologie, depuis un siècle, nous explique. C'est cette idée que l'espèce humaine est constituée par ses relations avec la faune et la flore sauvage, c'est-à-dire avec ses écosystèmes. On a été constitué par toute notre histoire évolutive, par toutes ces relations très intimes qu'on a eues avec cette faune et cette flore. Notre peau nue est un héritage de notre mode de vie et nos relations avec la faune avec laquelle on a cohabité il y a quelques 2 millions d'années. Et aujourd'hui encore, la totalité de ce que nous sommes est tissée de ces relations. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus de sens d'ériger l'humanisme en une valorisation absolue des humains contre des non-humains qui seraient des seuls moyens à disposition. S'intéresser vraiment à l'humain ou aimer mieux les humains, c'est les aimer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des tissages avec les non-humains. Et c'est ça qui m'amène à défendre la thèse sur laquelle l'écologisme, c'est le seul humanisme réel, parce que l'autre humanisme valorise un humain qu'il a mutilé en l'extrayant et en le séparant de sa communauté écologique.
Sabrina ? Oui, moi je pense que pour atteindre ça, le problème est que malheureusement on est souvent trop loin de ce monde et de cette prise de conscience. Et c'est vrai qu'il y a des choses très positives ici peut-être, mais ce qu'on voit en Afrique, c'est pas toujours. On n'a pas tout le temps le même optimisme. Mais je pense que le rôle de l'émerveillement est important, que l'écotourisme de vision, c'est aussi important et que c'est comme ça qu'on a envie de protéger. Voilà, donc on n'y arrivera pas si tout le monde s'y met pas, que ce soit donc c'est un enjeu citoyen, oui, il faut que chacun fasse attention à la forêt par le biais de ce qu'il consomme, mais il faut aussi que les politiques suivent et que la corruption diminue. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses imbriquées et il suffit qu'il y ait une des choses qui ne marche pas pour que l'équilibre soit rompu et il faut que chacun y mette du sien et ça, il me semble que c'est ça qui n'est pas évident. Quoi.
Il y a encore du boulot.
Ouais.
Gilbert ?
Oui, je crois qu'il faut absolument tordre le cou à cette histoire de « Ah, vous vous occupez des animaux et pas des hommes ». C'était Lamartine qui disait « La question n'est pas de savoir si on a un cœur pour l'homme ou un cœur pour les animaux, on a un cœur ou on n'en a pas ». Donc voilà, c'est bien. Mais c'est très stérile, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il faut vraiment lutter contre cela. Et c'est vrai que souvent, on a des élus. Moi, je me souviens d'un élu qui disait « Mais moi, entre l'homme et la truite, je choisis l'homme ». Mon gars, tu vas avoir des rivières toutes sales, il n'y aura pas de truites, tu auras choisi l'homme avec des rivières sales. Ça ne tient pas la route, quoi. Voilà. Donc, mais ça, il faut vraiment le déminer en amont et après partir sur bonne base. Et après, on peut arriver à obtenir beaucoup de choses, quand même.
Et c'est Romain Gary, dans sa lettre à l'éléphant, je crois, qui disait « Rien ne serait plus inhumain qu'un monde où il n'y aurait que des êtres humains ». Donc, il avait déjà tout compris. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions de la salle ?
Est-ce qu'il y a des questions ? On a le temps pour 2-3 questions.
Et puis de toute façon, après les questions, on se retrouve tous dehors. Il y a des livres, on va les dédicacer. Tout le monde a écrit des livres autour de cette table, donc on pourra continuer à discuter entre nous.
Bonsoir, mesdames, messieurs. En fait, j'ai une question à poser. J'aimerais savoir pourquoi la déforestation, si on sait que si on coupe les arbres, les animaux vont fuir. Pareil pour la mer, si les bateaux jettent leur fioul en faisant mourir beaucoup d'espèces. Comment faire pour lutter tous ces en fait pour la comment faire pour lutter contre la déforestation et contre tout ce qui peut nuire la nature en général. Merci d'avance. Merci pour
Sabrina pour la déforestation.
Alors, pourquoi on déforeste? C'est une vaste question. Bah, forcément, pour des raisons économiques. Et les enjeux sont un peu dissociés. Mais effectivement, comment lutter contre la déforestation? Bah, déjà, ici, on a des moyens d'essayer de réduire notre impact en consommant moins, en recyclant. En recyclant aussi bien le papier que les téléphones portables, etc., en choisissant du bois issu de forêts gérées durablement. Bon, c'est pas évident, mais encore une fois, il faut aussi que les pouvoirs publics s'y mettent, puisque une partie du bois qui rentre dans nos pays européens, et en France en particulier, arrive de façon illégale, donc il y a encore pas mal de boulot à faire. Voilà, donc je pense que...
Le sort des forêts n'est pas le même partout dans le monde, parce qu'en Europe et en France en particulier, au contraire, les étendues forestières augmentent. Et en France, ça a doublé depuis l'époque de Napoléon. Dans le film, on dit qu'au temps de Napoléon, c'était l'étendue minimale, mais 200 ans plus tard, ça a plus que doublé.
Il y a quand même aussi une nuance à faire, c'est-à-dire que couvert forestier, enfin couvert de bois, ne signifie pas forêt, et que même quand on restaure les écosystèmes, on n'arrive jamais à la diversité. Voilà, donc tous les projets de reforestation, c'est bien pour l'histoire du carbone, mais ça ne l'est pas forcément pour la biodiversité. Et donc il y a deux choses importantes maintenant, je pense, à relier, parce qu'on a beaucoup parlé du climat ces dernières années, cette dernière année surtout, et que maintenant il faut essayer de prendre en compte la biodiversité, c'est-à-dire la diversité végétale et animale. Et quand on protège la grande faune, c'est pas bien sûr uniquement pour elle, même si la valeur intrinsèque est importante, c'est évidemment parce que ce sont des espèces emblématiques et qui permettent la protection de l'ensemble d'un écosystème.
Gilbert, tu pourrais...
Oui, effectivement, par rapport aux forêts, ça c'est très important. Une surface forestière, ça ne veut pas dire une forêt pleine de biodiversité. Et un chiffre qui mesure tout cela, quand vous avez atteint l'âge d'exploitabilité de la forêt, il n'y a que 10% de la biodiversité qui est présente dans cette forêt. Pour avoir les 100% de biodiversité, il faut attendre des centaines d'années. Donc ça vous donne une idée. Alors, on peut les préserver, notamment par des réserves. C'est ce qui se fait avec des réserves biologiques intégrales dans les forêts domaniales. On peut le faire en achetant des forêts, en les préservant. Vous voyez, moi, il se trouve que je suis président d'une association qui s'appelle Forêt Sauvage. Et nous avons un site. Je fais ma petite publicité. Et donc, dans 15 jours, je signe pour l'acquisition. C'est un don en argent pour acheter des forêts. Pour l'acquisition de 62 hectares de forêts naturelles, complètement naturelles, en train d'évoluer vers des forêts matures, donc magnifiques, dans le Massif central. Et donc, on en est pratiquement, grâce à ma petite association et à quelques autres, on en est à plus de 600 hectares qu'on a déjà achetés et qui sont en protection absolument intégrale, puisque la maîtrise foncière est un moyen. Donc voilà, tout ça, pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer qu'au niveau du citoyen, parce que ça n'a rien à voir avec les pouvoirs publics, absolument rien à voir, c'est une entreprise complètement privée, en quelque sorte, on peut agir. On peut agir, c'est pas du tout impossible. On a des moyens d'action. Donc voilà, pour répondre un peu à votre question. Et puis sinon, oui, autre aspect qui relie un petit peu ce qu'on avait entendu aujourd'hui. En mangeant moins de viande, on a moins besoin de couper les forêts. Hein, puisqu'on le sait bien, hein, pour la même quantité de protéines, si ça vient de la protéine animale, il faut 10 fois plus de surface que si c'est des protéines végétales.
Et moins d'huile de palme aussi.
Et puis moins d'huile de palme, tout à fait, voilà.
Et moins de monocultures industrielles qui viennent de très loin, de façon générale.
Une autre question ?
Une dernière question.
Oui, bonsoir. C'est pas vraiment une question, hein, c'est juste une petite remarque. J'ai trouvé que vous étiez, lorsque vous avez donné cet exemple, je crois, à propos des oiseaux qui mangent les poissons des pisciculteurs, vous avez présenté comme dernière solution le coup de fusil. Je pense que c'est quand même un peu caricatural. Apparemment, vous êtes un homme de terrain, donc vous devez pas mal circuler. Moi, sans avoir votre expérience, j'ai également fait pas mal de choses dans plusieurs régions de France et dans l'Europe occidentale. Et je pense, j'ai cru remarquer quand même chez les gens de terrain, les pisciculteurs, les chasseurs, les paysans, un souci quand même de leur environnement qui est quand même beaucoup moins expéditif. Je peut-être que vous en conviendrez, mais dans une salle de Paris où les gens connaissent en général assez mal la campagne, je pense que c'est une idée qu'il ne faut quand même pas balancer comme ça, parce qu'elle n'est pas tout à fait juste.
Non, mais vous avez raison. Disons que ce que j'ai dit, le coup de fusil, il faudrait remonter à quelques décennies. Voilà. Il est peut-être mal placé au niveau du temps. Mais ce que vous dites est vrai, bien entendu. Je connais très bien un pisciculteur, là, Raymond, qui a travaillé sur les loutres. Raymond, c'est son nom, hein, c'est pas son prénom. Et qui est devenu un ambassadeur des loutres. Et il a mis en place des systèmes de protection. Là aussi, c'est gagnant-gagnant. Il a écrit un magnifique ouvrage sur les loutres. Il élève des truites. Et là, il va voir les pisciculteurs qui ont des problèmes avec les loutres. Et donc, voilà, on est sorti de cette époque. Donc, j'en conviens sans aucun problème. Et d'ailleurs, ça fait tellement plaisir de se tromper dans ce sens-là, voyez, de se dire il y a des coups de fusil qui se perdent, mais en fait, finalement, ils se sont vraiment perdus, ils n'ont pas eu lieu. C'est très bien. Donc, je préfère votre optimisme à ma provocation. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'on ait ces oiseaux qui reviennent, et c'est effectivement ce qui se passe. Hein. C'est quand même le vrai message à retenir, c'est celui-là. Voilà.
Bien, merci. Merci pour cette soirée. Donc, si vous voulez, on poursuit entre nous à la sortie de la salle autour des livres.
Un grand merci. C'est
merci.
Plein de belles histoires. Ça donne un petit peu d'espoir aussi. Le colloque se termine. Après ces deux jours intenses, passionnants, un grand merci à tous les intervenants de ces deux journées. Je vous rappelle que la plupart d'entre elles, enfin toutes les interventions ont été enregistrées en mode audio et les séances du soir ont été captées en vidéo, le colloque étant retransmis aussi en direct sur Internet. Donc d'ici quelques jours, vous pourrez les consulter sur Internet. Ça me donne l'occasion de remercier grandement tout le travail que vous avez pu, qu'on voit pas toujours, de la régie, de Renaud, de Arnaud, de Pierre, de Quentin et de Thomas. Merci à eux. Et à tous les intervenants et modérateurs de ces deux journées.
Merci au public aussi qui a été présent pendant tout le colloque et donc pour ces deux journées et deux soirées. Merci beaucoup. J'ai déjà remercié Étienne Bimbenet hier, mais il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, qui nous a aidés, qui nous a donné un conseil scientifique. Je voulais remercier également Thérèse Cluzeau, qui a, à sa manière aussi, contribué à enrichir cette programmation. Merci beaucoup à Jacques Cluzeau et à Oli Barbet qui ont fait en sorte que cette projection ce soir soit possible. Donc merci beaucoup.
Pour finir les remerciements, remercier aussi la compagnie du Singe Debout qui vous a proposé toute cette programmation artistique et a accompagné le colloque sur ces deux journées. Donc Jade Duviquet, Cyril Casmez, Jean-François Oel et David Myriam. Voilà, donc merci encore à vous d'être venus, une très bonne soirée et un bon dimanche à tous.
Et donc vous avez une séance de dédicace là, à la sortie. Par la librairie Flammarion, qu'on remercie également de sa participation.